Bienvenue au podcast L'Avantage numérique. Aujourd'hui, accompagné d'Olivier comme d'habitude. Ça va bien, Olivier?
Ben oui, super bien. Ça fait quand même un bon petit bout dans le temps où que on pensait que nos vies étaient normales et qu'on allait avoir une fin de saison comme d'habitude. Ouais, ça a changé pas mal depuis la dernière fois.
Non, ça, effectivement. Mais au moins, la vie reprend un petit peu par petit peu, puis on va pouvoir faire en sorte d'en reparler de hockey un petit peu. Ça va faire du bien. Je sais que tu avais plusieurs sujets qu'on voulait qu'on discute pour ce podcast-là. On va y aller de façon chronologique. Là. Au départ, on a eu la fameuse loterie de la Ligue nationale qui est survenue. Je sais qu'il y a plusieurs aspects qu'on a trouvés un peu spéciaux, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé comparativement à l'habitude. Fait que, Olivier, comment as-tu trouvé les démarches de la loterie faites par la Ligue nationale?
Ben, ça. On regardait ça se dessiner, puis on voyait qu'il y avait un beau potentiel de catastrophe. Puis, ben, calvaire, ils ont réussi à nous emmener une belle catastrophe. C'est fantastique. On a des séries, même pas commencées. On sait que c'est un de ces clubs-là qui va se ramasser avec un joueur d'exception. Tout ça pour avoir un peu le spotlight le temps d'une soirée. Je trouve que l'investissement vaut tellement pas tout le chaos que ça cause. Il y a certaines personnes que je suis quand même en désaccord qui disent que c'est bon pour le show, on en parle. Ben, sauf que tabarnouche, la première ronde commence. On a déjà des clubs qui savent, Montréal peut-être, pour pas les nommer, qui jouent contre Pittsburgh en première ronde. Ils savent que leurs chances sont pas super élevées. Ben, tabarnouche. Et on va se faire éliminer au plus vite possible. On va avoir des chances d'aller chercher Lafrenière. N'importe qui en première ronde perdre, c'est plate, mais tu as quand même 12,5% des chances de ramasser un joueur de concession qu'il y a un potentiel de jouer une quinzaine d'années pour toi. Je trouve ça tellement aberrant. Je me mets à la place d'Ottawa ou Détroit qui voit ça se dessiner que tabarnouche. On n'est pas dans les playoffs. On a eu une saison de misère. Ben, c'est quand même un club qui est dans les playoffs. Si on se fait un scénario, là, on a des clubs potentiellement comme Edmonton, on a Nashville, on a Pittsburgh, Toronto, qui peuvent se ramasser avec Lafrenière. Je trouve que c'est une aberration, là, vraiment totale.
Non, effectivement, ça a été assez spécial. Je pense que le best aurait été qu'il le fasse en une soirée comme d'habitude, après les séries. Là, puis ça vient en sorte que là, il y a des discussions qui se disent. Je pense pas qu'au niveau des joueurs, ils vont faire exprès de perdre pour ça. Je pense que les joueurs, c'est des athlètes professionnels, sont de nature compétitive, puis ils vont vouloir gagner les séries, que ce soit n'importe quel scénario, même si c'est des séries qui sont un peu improvisées. Mais tu sais, c'est sûr qu'en tant que dirigeant, directeur général, propriétaire, c'est sûr que tu le diras jamais ouvertement dans la presse, mais c'est sûr que dans ton fond intérieur, tu peux pas souhaiter perdre puis te ramasser avec le premier choix repêchage, hein, qu'on sait que c'est quand même un bon joueur là, qui a un bon potentiel.
Ah ben oui, ben c'est clair. C'est sûr que les joueurs, ils ont trop de fierté, ça n'arrivera jamais. Mais mettons que je suis directeur général, je suis là, puis je fais comme, ben tabarnouche, je vais l'essayer, mon kid. Je vais l'essayer, mon bon kid qui a été dans la Ligue américaine, qui a fait une bonne saison. Je vais lui donner un anane, je vais lui donner du deuxième power play. Tu sais, habituellement, faire jouer des jeunes, la majorité du temps, tu vis avec ses erreurs, mais là, tabarnouche, on va vivre avec certainement. Puis, tu sais, on va jouer de la carte d'être réaliste, là. Tu sais, si, même par un scénario, là, très, très probable que Montréal passe Pittsburgh, s'en vont jouer contre Tampa Bay, qui est encore un des clubs les favoris dans la Ligue. Fait qu'est-ce qui va se produire? C'est que, dans le pire des cas, ils vont aller manger une tape contre Tampa Bay, mais ils n'auront pas de chance d'avoir Lafrenière. Bah, tabarnouche. Je sais pas. Écoute, je me pose la question de ce qui va se passer. C'est la première et j'espère la dernière fois qu'on va vivre ça. Mais tu sais, le pire, je pense que ce qui me fâche le plus, c'est qu'il n'y avait aucune presse de le faire, la loterie. Il aurait pu attendre à la fin de la saison. Tu sais, on s'entend qu'actuellement, là, la saison en automne, c'est pas réaliste de penser que ça va repartir avec 20 000 spectateurs. Là, c'est bien beau, tout le monde veut la finir la saison parce qu'il y a eu 60 games de jouer, puis que pour ils veulent limiter les dommages. Mais moi, jamais, jamais, je crois pas qu'ils vont commencer une nouvelle saison de 82 games avec zéro personne dans toute la saison. J'y crois pas. Fait que je me dis, tabarnouche, pourquoi ne pas avoir bien fait les choses à la fin de la saison? Puis anyway, il faut qu'ils fassent un off-season. Ils peuvent pas repartir ça tout de suite après série. Il y avait aucune presse. Aucune presse. Ils auraient pu faire comme d'habitude. La première ronde est faite, là. Tous les clubs, là, ça s'est replacé, là. On commence les vraies séries. Ben là, on fait notre loterie. Il n'y avait aucune urgence. Je trouve ça aberrant. C'est improvisé juste pour avoir un peu de spotlight. Puis j'ai bien de la misère avec ça.
Ah, ça, écoute, j'ai pas grand-chose à dire de ça. Là. C'était assez complet comme analyse, effectivement. On vient de comprendre un peu pourquoi qu'on a vu... là, présentement, on est mercredi soir. Là, on a eu la game préparatoire entre Toronto et Montréal la veille. Pourquoi que des jeunes comme Robertson, Belzile, Ouellet, des personnes qui n'étaient pas là pendant la saison régulière, qui se retrouvent là en moment que ça va être les séries, il y a un match préparatoire à jouer, les gars jouent. Des fois, tu te mets à demander quel sérieux que les dirigeants vont donner à ces séries-là aussi. Là.
Ah ben oui, c'est écoute, je pense que j'ai hâte et pas hâte que ça recommence justement pour ça, parce que j'ai encore de la misère à avoir un engouement pour ces séries-là. J'adore le hockey, je vis du hockey, je lis le hockey à chaque jour. Mais tabarnouche, ils n'ont pas réussi à m'emmener dans le bateau, là. Puis je suis le client parfait. Tu me connais, t'es pareil. La petite cuillère, là, est sur le bord de la bouche, là. Même si je n'ai pas faim, genre. Mais je sais pas. J'ai bien hâte de voir. Puis j'ai surtout hâte de voir le client.
Les fusillades en prolongation?
Ah, ça me fâche. Ça, là, imaginez, là. En première ronde, c'est pour les gens qui ne le savent pas, ça va être une série 5 minutes à 3 contre 3 et ensuite fusillade. Fait que là, c'est maintenant possible en 2020 qu'une équipe joue sa saison entre continuer dans les playoffs ou être éliminée sur une fusillade. Puis compléter... le mot que vous voulez, c'est ça. Tabarnouche, je peux même pas croire. Je peux même pas croire. Continuer le 3 contre 3 durant 10 minutes, et si on le voit, ça finit toujours par marquer des buts. Faites du 2 contre 2, faites du 1 contre 1, mais pas des calvaires de shootout en playoff. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est un aberrant. On parle de plus en plus de potentiellement le retirer durant la saison. Puis on le met dans les playoffs. Tabarnouche. Imagine ça. Il va y avoir une série, là. Je pense qu'il va être celle qui me parle le plus, là. C'est les Flames contre Winnipeg, là. On le sait que ça va être une guerre de tranchées avec des games de l'Ouest. Ça va être tough. Ça va être bon. Il va y avoir des skills. Ça, là, ça peut finir en shootout. Tabarnouche. Écoute, je vais être fâché pour deux jours, là.
Ah, c'est sûr. Puis en même temps, même à part ça, veux-tu être vraiment l'équipe qui a un bail pour la première ronde? C'est oui, t'arrives, t'es reposé. Mais là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Plus que 3-4 mois que t'as pas joué. Là, t'as eu un match préparatoire pendant ce temps-là. T'attends pendant quoi? Une, deux semaines que l'autre équipe arrive. L'autre équipe, eux, ils ont eu 4-5 matchs. Il est là leur camp préparatoire à eux. Là. Leur système, il est peut-être pas aussi à jour qu'un 6 mois de jeu de la saison régulière, mais au moins, ils ont eu un vrai camp préparatoire, l'équivalent de 4-5 matchs avant que ça commence vraiment les vraies séries. Puis pendant ce temps-là, ben, t'as des équipes comme Tampa Bay, Washington, qu'eux autres, ils attendent, ils font des pratiques, c'est pas des situations de jeu, puis bang, les séries contre une bonne équipe qui est prête. Là. Je sais pas, moi, ce que j'en pense. Si c'est vraiment qu'est-ce que les équipes qui ont eu le bail, comme Tampa Bay, Washington, sont vraiment contents de l'avoir, ce bail-là.
Ah ben, moi je suis 100% de... Ben moi, je vais l'amener différemment. Je pense qu'il n'y a personne de gagner là-dedans. Il n'y a personne. Parce que les équipes qui jouent en première ronde, oui, ils vont trouver une certaine vitesse de croisière, mais le risque de blessure est là dans un 3-5. Ça va être beaucoup de hockey en peu de temps. Il va y avoir des blessures, puis il va y avoir des clubs qui vont leur manquer des bons joueurs pour commencer à deuxième ronde. Puis t'as mis le doigt dessus, là. Le club qui attend, là, oui, c'est pour faire des pratiques puis des games hors concours, mais ils n'auront pas l'intensité, ils n'auront pas leur game shape. La cohésion, à mon, je pense, ça me surprendrait que ça soit là. Dans la Ligue nationale, ça prend un mois, des fois un mois et demi avant vraiment qu'on voit que les systèmes sont à jour puis tout soit là. Fait que eux autres vont partir deux semaines plus tard.
Les systèmes, puis il y a des. Tu sais, moi, c'est le premier que je pense, c'est un Max Pacioretty. Le gars que ça prend tout le temps deux mois avant que ça part pour de vrai. Là. Mm-hmm. Lui, il doit pas être content de la situation qui se passe, là, parce qu'il doit le savoir là, qu'il part pas de suite, lui. Là.
Ah, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est sûr, tu mets le doigt dessus, c'est sûr. Là-dessus, puis.
Sinon, ouais, écoute, sinon, toi, Olivier. Trouves-tu que ça va être plus facile ou plus difficile de gagner les séries cette année avec le format? Comment ça va être fait?
Honnêtement, j'ai beaucoup de misère à me statuer là-dessus. Parce que, ça, tu sais, comme on s'est parlé un petit peu, les équipes qui sont sur le bubble, là, la première ronde, ils vont tellement jouer de hockey en peu de temps. Moi, je crois que les blessures vont jouer un rôle majeur dans ces séries-là. On parle beaucoup d'impondérables habituellement dans une série de hockey. C'est des petits détails. Puis je crois qu'on va avoir plusieurs joueurs vraiment d'importance qui ne seront pas disponibles. J'ai encore de la misère. Honnêtement, là, c'est la question à 1 000 $. C'est pas un format qu'on connaît et qu'on est habitué de voir. Fait que, ça, c'est le côté, là, par exemple, qui me parle que tabarnouche, on vit de quoi d'unique. On reverra probablement plus jamais ça, ce format-là. C'est sûr qu'il va être intéressant, qu'il pique ma curiosité. Je veux le voir parce que je ne reverrai plus jamais ça. Mais.
C'est sûr que c'est improvisé. C'est sûr que les nationales se sont pas dit en début de saison « Hey, on va faire les séries de telle façon. » C'est vraiment relié à la situation exceptionnelle qu'on vit présentement. Ça a été la solution qu'on trouvait. C'est peut-être pas la meilleure des solutions qui répond à tous les amateurs, mais en même temps, je pense que ça commence à être problématique de trouver une solution. Je pense qu'ils ont essayé de faire avec qu'est-ce qu'ils pensaient être le mieux. C'est sûr qu'il y a tout le temps des choses qui sont plus difficiles dans des choix qui sont faits, notamment comme les blessures, comme tu parles. La qualité aussi des matchs qu'on va pouvoir regarder à la télévision. Tu sais, oui, on n'est pas présent dans l'amphithéâtre, mais ça reste que l'ambiance sera pas là. Comme j'ai dit tantôt, on a pu regarder un match d'exhibition en Toronto-Montréal. C'est sûr que ça reste un match d'exhibition, fait que c'est plus difficile de comparer à ce que va être vraiment un match de série en tant que tel, mais écoute, je pense que c'est Jonathan Drouin justement qui a cité qu'il y avait plus d'ambiance dans un match à Tombe-Durbuy à Mont-Tremblant quand il était jeune que dans un match international qu'il a fait hier. Est-ce qu'on va embarquer? Parce que veut pas l'ambiance, fait partie du sport, fait partie de ce que les spectateurs aiment regarder aussi, là.
Ah ben ça c'est clair, mais tu sais, moi c'est quand même du hockey de playoff. Je pense que l'intensité va tellement être là, ou j'espère qu'elle va tellement être là, que je crois qu'on n'aura pas tant de misère d'embarquer dans sauce une fois que ça va être parti et qu'on va être habitué. La saison de baseball, ça fait une semaine qu'elle est là, j'ai pas de misère, je regarde les matchs puis ça me dérange pas, tu sais. Et c'est pas parfait, mais c'est sûr que le baseball, c'est pas le sport qu'on a besoin des fans le plus, mais ça reste quand même que j'ai un intérêt à regarder ça. Le hockey, je pense que ça va être un petit peu plus difficile, mais je regarde ce que la NBA font. Ils ont mis plus d'écran un petit peu qu'au niveau hockey, ils mettent plus d'ambiance sonore un petit peu. Puis c'est agréable à regarder. C'est pas comme s'il y avait 20 000 spectateurs, mais c'est pas désagréable. Fait que je pense que le hockey, qu'est-ce qui fait la grosse différence? C'est que là, justement, là, les gousses, la cohésion est plus longue à reprendre qu'au baseball ou je pense au basket. Mais je pense que quand l'intensité là, va être repartie, puis qu'on va être à une bonne game 6, puis puis que tu vas regarder une bonne série de hockey, que tu vas regarder, par exemple, un Vegas-Vancouver, je pense que... Ah, tabarnouche, non, c'est bon, mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps à s'acclimater. Mais moi, ça me fait pas peur. Je pense que le... je pense que je te connais assez pour dire que t'aimes tellement la game que peu importe ce qui va se passer, quand que ça va compter pour vrai, on va être là les deux premiers à se texter
ouais,
qu'est-ce qui se
je
passe.
Je pense que tu mets le doigt. Je pense que les vrais, de vrais fans vont trouver leur plaisir là-dedans. Je pense pas que c'est de cette façon-là, par exemple, qu'on va aller chercher des nouveaux amateurs de hockey. Là. On sait qu'au Québec ou au Canada, la place du hockey auprès de la population, la place est prise, c'est pas à faire. Là. Je pense pas que c'est là qu'on va gagner des nouveaux marchés non plus. C'est sûr que la première fois que j'ai entendu parler qu'elle allait avoir un retour du hockey au mois de juin, juillet, j'étais « Ah, écoute, je pense que j'ai d'autres choses à faire de mon été que ça. » Là, on se retrouve au mois d'août, puis je te dirais, j'étais quand même assez excité à voir le samedi arriver, de voir les, je pense, c'est 5 matchs que samedi ou 4. C'est sûr que j'ai de l'intérêt, puis c'est sûr que je vais les regarder. Fait que, tu sais, de ce niveau-là, c'est sûr qu'on réussit leur coup, là, parce que oui, c'est vrai, je vais être consommateur de leurs produits.
Ah, c'est sûr, ça. Je pense qu'on va revenir dedans, mais tu sais, ça, c'est clair. Je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est les casual fans, là, ceux qui sont là à l'occasion. Je pense que c'est difficile. Tu sais, je peux peut-être faire un petit parallèle un petit peu avec la seule chose vraiment qui a continué à fonctionner pendant la pandémie, c'était la lutte. Et ici, mettons, on regarde avec la WWE qui, on s'entend, mondiale, est vraiment un monstre au niveau de popularité. Les codes d'écoute, oui, le produit est pas à son meilleur depuis des années, mais ça reste que les codes d'écoute fondent. Là. Tiens, là, c'est vraiment les hardcore fans là, qui écoutent encore le produit. Là. C'est sûr que ça fait 3 mois que ça dure. Les séries de la Ligue nationale vont durer moins longtemps, mais c'est difficile, ça, à long run, d'apprécier un produit. Pas de fans, moins d'ambiance, si c'est pas ancré en toi, là. Ça, c'est
ah,
sûr.
Ça, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je prévois quand même un faible décollage parce que au niveau hockey, je pense que ça va être plus difficile peut-être les deux premières rondes. Mais tu sais, quand on va arriver après, mettons, au niveau de la troisième ronde, je pense que le hockey va commencer à ressembler à du vrai hockey, du hockey de série. Ça va être repris. C'est sûr que regarder du hockey au mois de septembre, c'est plus facile aussi. Fait que d'après moi, ça va décoller en fin de série, d'après moi, la popularité.
Ah, c'est clair qu'écouter le hockey quand il y a une grosse canicule dehors, ça va être assez particulier quand même.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Parfait. Puis, tu sais, il y a une grosse histoire, Pat, qui s'est passée là, en fin de semaine, puis je pense qu'on peut pas passer à côté là, de cette histoire-là. C'est l'affaire avec John Chayka. Je sais pas si à quel point tu as suivi ça, mais Elliot Friedman a sorti des détails quand même assez croustillants de ça, parce que tout est surprenant dans l'histoire, dans le sens que les séries commencent à peine et on apprend que John Chayka s'en va. Après ça, deux heures plus tard, on apprend que la Ligue nationale est là-dedans pour justifier le divorce. Les propriétaires des Coyotes, ils vont sur la place publique pour lyncher John Chayka, de le traiter de menteur et tout. John Chayka qui répond que les nouveaux proprios sont pas vivables. C'est tabarnouche. C'est, ça n'a aucun sens.
Écoute, attends, Olivier, tu es nommé directeur général d'une équipe de la Ligue nationale. On est peut-être un petit peu plus jeune en âge, là, mais tu sais, t'es dans la trentaine, t'es nommé directeur général, c'est quand même assez surprenant que tu démissionnes de ton poste, là. Quelque chose qui s'est passé quelque part, là.
Ouais. Ben c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, puis on a su l'équipe, on n'a pas su l'équipe, pardonnez-moi, encore, mais c'est que les Coyotes ont négocié son contrat à John Chayka, il l'a signé. Mais par la suite, vers la fin de la saison, il y a une équipe qui les a appelés pour jaser avec lui pour potentiellement qu'il y ait avec cette équipe-là. Parce que les Coyotes avaient initialement refusé. Oui, ils avaient refusé, puis ils ont changé d'idée, puis ils ont fait, gars, écoute, on veut pas rien t'empêcher. Fait que okay. John Cena a été parlé avec cette équipe-là, et ils ont fait un offre aberrant. Ça a l'air qu'on n'a pas les chiffres encore, mais qui est aberrant. Elle est vraiment élevée. J'ai vraiment eu de la misère à le dire, mais c'est, l'offre était vraiment, vraiment très, 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 très élevée. Fait que John Cena a décidé de l'accepter. Et là, on ne sait pas encore c'est où, c'est quel club, c'est où, mais il a accepté un autre poste ailleurs. T'sais, il n'a pas décidé de démissionner pour juste prendre du temps avec sa famille. Il a déjà un job ailleurs. Fait que c'est sûr que je me mets à la place des propriétaires et toute l'organisation des Coyotes. J'y donne une prolongation de contrat. Les playoffs commencent, on y fait confiance, c'est nous qui l'avons emmené dans la Ligue nationale. Puis il nous chie ça 2 jours avant dans la même semaine que les playoffs commencent. Ah! Tabarnouche! Ah,
ta sales, ouais.
Okay. C'est une histoire qui semble vraiment aberrante, mais tabarnouche. Je lisais ça, puis vraiment, Friedman l'a vraiment bien détaillé, puis je regardais ça, puis j'étais comme. Ça n'a aucun bon sens. C'est complètement dérisoire. Qu'est-ce qui se passe là? Puis je me dis aussi, les Coyotes, tu venais de le signer. Pourquoi tu lui as proposé d'aller écouter les offres? Tu barres la porte. C'est correct.
Non, c'est
tu l'as signé. Il n'a pas négocié plus que ça. C'est that's it. Ça finit là.
Et honnêtement, là, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais. Je comprends pas pourquoi une autre équipe irait faire un offre à John Cena. Moi, il m'a vraiment pas impressionné dans son poste. Là.
Non, je suis complètement d'accord. Parce que je pense que les Coyotes, c'est un des clubs qui a un super beau potentiel, mais qui fait du surplace un petit peu. Tu sais, ça fait plusieurs années, on parle bonne petite équipe sur la glace. Après ça, bon prospect. Mais on reste dans la même patente. Là.
Ah, c'est ça.
Il a fait des gros moves. Il a été chercher Kessel. Il a été chercher Taylor Hall. Les résultats ne sont jamais venus. Puis tu sais, quand ça fait 2 ans que tu es en poste, tu fais « OK, on va laisser du temps », mais ça fait déjà un bon petit bout qui est là. Puis on se dit « Tabarnouche, faut apporter des résultats. » Puis tu sais, c'est complètement hors sujet, mais tu sais, c'est un peu le même pattern avec Marc Bergevin. C'est qu'à un moment donné, tu es là depuis longtemps. C'est correct, tu peux faire bon petit move par-dessus mon petit move. Mais à un moment donné, c'est un business de résultats. Tu es directeur général. Si tes scouts draftent mal, c'est de ta faute. Si ton coach que tu as clairé en passant, et là, tu en as emmené un nouveau, qui est maintenant rendu Rick Tocchet, qui ça faisait pas le job, ben c'est toi qui l'as nommé. Maintenant, si les joueurs que tu vas chercher ils ne performent pas, ben c'est ta responsabilité, c'est ta faute. Là. Fait que c'est sûr que. Puis non, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que c'est quand il est arrivé dans la Ligue nationale, on pensait qu'il allait révolutionner à cause qu'il était beaucoup aux côtés des stats avancées, mais il n'a pas réussi, je pense, à vraiment faire ses preuves là, de façon. Ça, c'est pas impressionnant ce qu'il a fait à date. Tu sais, je pense qu'il est encore jeune. Je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui l'ont louangé avec le temps. Mais tu sais, sais-tu qu'il y avait les mains liées un petit peu aussi au niveau du budget? Tu sais, on s'entend, c'est les Coyotes, c'est pas impossible non plus.
C'est les Coyotes. Et en même temps, tu sais, on parle de Taylor Hall, Phil Kessel qui n'ont pas répondu à l'appel, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment motivant d'aller par là-bas? Est-ce que tu sais, je pense pas que c'est les Rangers, mais mettons que t'es DG des Rangers, tu vas chercher Kessel puis Taylor Hall, c'est peut-être un autre rendement que tu vas avoir de l'autre.
Là. Ah, mais ça c'est clair. On s'entend, là. C'est sûr. Puis, tu sais, aussi, c'est deux joueurs qui peuvent avoir un véritable impact, mais personnellement, c'est pas les deux gars que je veux dans mon vestiaire. Tu sais, Taylor Hall, là, on peut refaire son historique. On n'a pas besoin du paquet qui était avec les Oilers. On t'entend, c'est une catastrophe. L'année qui s'en va, les Oilers font un playoff. New Jersey allait bien. New Jersey, ça a devenu une catastrophe. Les Coyotes avaient une super de bonne saison. Ils vont chercher Taylor Hall. Le bateau se met à couler. Après, là, je crois aux coïncidences. calvaire, trois clubs différents. Je me dis, c'est que tabarnouche, là. T'es peut-être pas la personne que j'ai envie de côtoyer. Puis, tu sais, avec Kessel, ben, on l'entend, il a pas coûté cher, Kessel, mais, tu sais, Malkin, c'est pas...
Là.
Ben, c'est ça, Malkin s'est pas caché pour se dire qu'il voulait plus jouer avec ce gars-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut...
Tu as gagné deux coupes Stanley avec lui en 3 ans aussi, là.
En plus, on s'entend, tu sais, on n'a pas eu la chance de jouer dans le national et encore moins de gagner une coupe. Mais tu sais, quand on entend parler des gars qui ont joué avec d'autres puis qui ont gagné, ça fait 20 ans qu'ils sont retraités puis ils en parlent encore avec admiration de leur coéquipier parce que c'est spécial d'aller à la guerre avec quelqu'un puis de gagner.
Non, c'est ça.
Il fait 2 ans, il gagne 2 coupes. L'année d'après, ouais. Fuck off, Phil. C'est déplaisant. On veut juste même pas être avec toi. C'est complètement flyé, là. Fait que non, c'est vraiment particulier. Puis j'ai bien hâte de savoir c'est quoi l'autre club. Ben quel club là qui.
C'est ce qui a fait ça.
Oui, exactement. On parlait beaucoup des Devils de ce temps-là. Fait que on va voir si ça va se produire ou pas. Mais c'est
un autre club respectable.
Un autre club avec gros du budget, là. C'est ça, il va aller chercher ses prospects qu'il a donné pour Taylor Hall.
Ah, c'est ça. Sinon, peut-être un dernier tour d'horizon. On pourrait faire une petite prédiction des séries qui s'en viennent. De retourner un peu dans le volet hockey. Première série, je pense, c'est dans l'Est. Deux équipes favorites de chacun de nos côtés.
Ben oui, absolument. Ben, gars, écoute, je vais te laisser commencer à briser la glace avec... toi, c'est quoi que tu penses qui va se passer?
J'ai Pittsburgh, dit Montréal-Toronto, hein, mais c'est Montréal contre Pittsburgh.
J'essaie de rattraper ça et de faire comme si j'en avais pas fait ça, mais... Ah non!
Écoute, j'ai beau être partisan des Canadiens, je suis pas capable de m'imaginer dans un monde que les Canadiens vont être capables de surprendre les Pingouins en dehors de facteurs chance, là, comme qu'on parlait tantôt d'un match qui finit 2-2, qu'on gagne un match en fusillade, là, puis c'est des séries de 3-5, fait que t'as juste 3 matchs à gagner. Fait que peut-être de ce côté-là, s'il y a de la chance à quelque part, quelque chose se passe bien, mais logiquement, je peux pas croire que les Canadiens vont réussir à battre les Pingouins. Une offensive menée par Sidney Crosby, Evgeny Malkin, même Jake Guentzel qui avait une bonne saison. Oui, la défensive est ordinaire, mais on peut pas dire que la défensive des Canadiens est bien ben meilleure. La seule chose qu'on peut dire qui est peut-être un peu meilleure, c'est au niveau des gardiens de but. Carey Price, qui, à mon avis, est encore là. Carey Price, c'est un gardien qui a connu, je pense, sa gloire. Avant cette saison-là, je pense que Carey Price, il s'en va sur la pente descendante petit par petit. On sait toujours pas qui de Matt Murray ou Tristan Jarry va goaler non plus. Mais, tu sais, en dehors de l'aspect des gardiens de but, je pense que les Pingouins vont gagner 3-0, 3-1 cette série-là, à mon avis.
Ouais, c'est dur d'être en désaccord avec ça. Tu sais, je pense vraiment qu'est-ce que ça peut jouer, tu sais, t'en as parlé, c'est au niveau des gardiens de but. Si Carey Price retrouve le Carey Price qui est capable d'être hot puis d'être un game changer, c'est moi, je m'attends à voir Matt Murray parce que Sullivan a gagné avec lui. Fait que moi, je m'attends vraiment à le voir dans le but. Puis moi, Murray, j'ai pas confiance en lui. Vraiment, vraiment pas. C'est vraiment pas un gardien que j'apprécie. Nécessairement, ce qui, par moment, peut être vraiment chancelant. Puis, je pense pas que Pittsburgh ait une défensive qui peut se permettre d'avoir un gardien chancelant. T'sais, si Carey Price est ordinaire, Malkin, Crosby, Gonzalez, ils vont le remplir le net, on s'ostine pas. Mais si Price est dans sa zone, tabarnouche, Carey Price qui est dans sa zone, là, il accorde rarement 3 buts. Là. Si non, Montréal ont besoin de scorer 2 buts ou à la limite 3 pour gagner une game, je crois quand même à leur chance. Je dis pas que c'est ça qui va arriver, 0-0. Mais si Price, je pense que c'est la seule chose qui est à surveiller. Si Price il est hot, Montréal, ils ont des chances. Si Price est moyen, c'est terminé. Fait que ça va être intéressant à suivre. T'sais, ça va être... bon, tu sais, Montréal, c'est un club... Claude Julien, il fait une bonne game de système. Ils sont bien coachés, Montréal. Fait que tu sais, c'est pas un club qui est nécessairement facile à jouer. T'sais, c'est un club de travaillants. Si ton goaler fait les arrêts, tu sais, ils vont aller chercher le puck en fond de zone. Ils vont emmener des rondelles au but. Puis si Marine, il est juste moyen... Ah, ça, je serais pas étonné nécessairement
c'est
que
ça, Montréal... série 3 de 5, tout se peut, c'est ça qui arrive. Mais ah, logiquement, oui. Je pense qu'on est d'accord, les pingouins.
Ah ben oui, on s'entend, ouais. on s'entend.
Sinon, si on se transporte de nouveau Toronto, Floride, qu'est-ce que t'en penses?
Toronto, Columbus? On est à Toronto, Columbus? Pat, d'après moi, ta braquette est brisée un petit peu. écoute, Toronto-Columbus, ben honnêtement, je suis pas super confiant pour les Leafs. Columbus, c'est un club bâti pour les playoffs. Ils sont tough, super bonne défensive. Ils jouent dur, c'est pas le fun de jouer contre eux autres. On a vu qu'est-ce qu'on fait à Tampa Bay l'année passée. Ils ont violé en 4. C'est pas le fun de jouer contre Tampa Bay, contre Columbus, pas en tout. Toronto, c'est un club de skills. C'est à peu près le pire match-up qu'ils pouvaient pas arriver à avoir. Donc, encore là, je pense que qu'est-ce qui va changer beaucoup, c'est est-ce que c'est le Anderson qui est capable de tenir son équipe dans le match? Puis de faire l'arrêt clé de temps en temps, ou l'Anderson qui a été quand même la majeure partie de la saison, quand même relativement chancelant, puis qui a à la limite coûté des matchs, parce que c'est un gardien qui a beaucoup de avec un manque de constance quand même assez flagrant, fait que c'est ça que moi, ça me fait bien peur avec ça, là.
Ouais, effectivement, mais moi, en même temps, tu regardes de l'autre côté, c'est Elvis Mendelkin qui va avoir sûrement le flip pour les séries face aux Maple Leafs. Je pense que lui aussi, c'est un point d'interrogation. C'est un gardien qui avait bien fait en fin de la saison, en cours, avant que ça soit en arrêt, là. Mais je pense que ça va être quand même assez difficile à prévoir quelle sorte de performance qui va nous sortir là. Pour vrai, j'ai de la misère à argumenter ou à m'avancer sur quelle équipe qui va sortir vainqueur de cette série-là. Cependant, je pense que ça va être une série qui va être vraiment très, très intéressante à écouter au niveau que ces deux clubs qui sont très jeunes avec de hauts potentiels. Tu sais, qu'on écoute Columbus avec Seth Jones, Zach Werenski, même le Québécois, là, Pierre-Luc Dubois, versus les Mitch Marner, John Tavares qui est peut-être un petit peu plus vieux, là, mais Austin Matthews, William Nylander, Kapanen, Riley, ça va être vraiment une série qui va être basée sur la jeunesse, fait que ça va être vraiment très intéressant. Mais si on me demanderait de choisir un camp, je pense que j'irais quand même du côté de Toronto.
Je pense que ce serait la logique, mais encore là, je pense que c'est un autre... Non, c'est ça, absolument pas. Là. Je pense que les défenseurs des Leafs, qui sont pour la majorité, un peu des défenseurs un peu plus de skill en Riley, puis Tyson Barry, par exemple, se faire frapper là, par les gros attaquants de Columbus, je pense que ça peut rapidement virer pas le fun.
Ah, ça c'est sûr.
Fait que là, si on passe à la série suivante, mon Pat, Islanders, Panthers, qu'est-ce que t'en penses?
Vraiment très difficile. Les Islanders nous ont montré l'an passé qu'ils sont capables d'être vraiment très solides défensivement. Les Panthers, on s'entend que c'est une équipe que s'ils veulent avoir du succès, ça va passer par l'offensive. Huberdeau, Barkov, Dadonov, Trocheck, c'est vraiment un talent brut offensif. Au niveau défensif, c'est d'autres choses. On ne sait jamais qu'est-ce que Bobrovsky va nous sortir comme performance. C'est pas une défensive qui est mauvaise non plus. C'est qu'on ne sait pas. Les Panthers, s'ils ont deux visages tout le temps, des séquences de victoires, des séquences de défaites, c'est quoi qu'ils vont nous sortir comme performance? C'est vraiment mystérieux. S'ils sont capables de sortir hot, je pense que les Panthers ont une chance de battre les Islanders sérieusement. Mais ça dépend toujours de quelle façon qu'ils vont sortir. Du côté des Islanders, je pense c'est une équipe qui est vraiment bien coachée. Tout va passer par le coaching. On sait que c'est un format de série qui est très accéléré, que peut-être les systèmes ne seront pas à jour. Fait que je pense que pour cette raison-là, je pense que j'irais du côté des Panthers pour gagner cette série-là.
Ouais, moi, je suis 100% d'accord. C'est peut-être, selon moi, peut-être la deuxième série la plus évidente qu'on a dans ces séries-là. Moi, les Islanders, je ne suis pas un fan. Je suis pas un fan dans les buts. Je suis pas un fan de la défensive. Je suis pas un fan de l'attaque. Ils sont juste crissement bien coachés. Barry Trotz, ils sont vraiment juste bien coachés, mais il n'y a rien qui me fait vraiment adorer ce club-là. Puis les Panthers, super de belle offensive qui est beaucoup diversifiée. J'ai quand même plus confiance en Bobrovsky. Moi, je m'attends à ce que les Panthers passent au travers des Islanders. C'est un bon petit club que j'aime bien, que je pensais qu'elle allait plus performer qu'est-ce qu'ils ont fait cette année. Je pense qu'ils ont été quand même relativement décevants. Ils étaient quand même 10e au courant de la saison, mais je m'attends quand même à des bons résultats contre les Islanders. On va espérer, par exemple, que pour
C'est-tu
les
enfin
Panthers.
leur année?
C'est-tu enfin? Mais je fais juste espérer qu'ils récupèrent rapidement leur rythme de croisière parce qu'ils ont joué un match hors concours cet après-midi contre le Lightning et ont mangé une varlope de 5-0. Fait que on va espérer pour eux.
C'est sûr, mais on s'entend que si on compare potentiel de talent Lightning, Islanders, c'est pas pareil non plus.
Non, non, c'est sûr, mais tu sais, on s'entend que tu peux perdre une game de 2-1 et pas la perdre 5-0, puis c'est une game en concours, ça veut rien dire, mais il faut
C'est
qu'ils
sûr,
se
c'est sûr, c'est
saisissent
sûr.
rapidement, là.
C'est
Ça, c'est
sûr.
sûr. Fait que.
Sinon, on va passer à la dernière série de l'Est, qui est à mon avis la série la plus difficile à prédire le camp victorieux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses.
Ah,
Les
ça va être
Rangers,
bon.
c'était quand même une bonne séquence là, avant que la saison termine, malgré leur 11e position. Les Hurricanes, ça semblait être plus le contraire. Là. Ça commençait plus difficile, plus que la saison avançait. Écoute, je pense que j'irais du côté des Rangers, surprenamment, même si c'est une équipe négligée des séries. Le Hurricane, c'est une bonne équipe. Il y a un bon système de jeu, ils jouent bien. Mais j'ai toujours de la misère à embarquer encore, voir s'ils sont vraiment prêts à faire le step. Puis les Rangers, j'ai vraiment, vraiment apprécié la façon que l'équipe s'en allait à travers la saison. Malgré la 11e position, là, quand la saison a fusé, je pense qu'ils ont des chances de gagner cette série-là.
Ah ben, j'y crois aussi, moi, les Rangers, c'est un des clubs que je pense que d'ici quelques années dans l'Est vont être une puissance. Moi, tu sais, quoi dire de Panarin qui a eu une saison exceptionnelle, Zibanejad qui a été quand même relativement blessé, mais qui avait quand même 75 points déjà. Tu sais, Tony D'Angelo, Adam Fox qui est à défensive ont vraiment sorti, je veux pas dire de nulle part, mais tu sais, qui ont vraiment éclos. Fait que tu sais, une belle offensive, joue bien, cherche Sorokine dans le net. Il a prouvé qu'il fait les arrêts. Il est rendu goaler numéro 1. Il a dépassé Lundqvist. C'est sûr que je crois beaucoup en leur chance. Les Hurricanes, c'est un beau petit club aussi. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment super bien coachés. Rob Brind'Amour fait un job de système avec eux autres, là. Vraiment impeccable. C'est toujours dans les équipes qui ont le plus d'occasions de marquer par rapport à l'autre. Plus de lancers que l'autre, plus de temps de possession. La seule chose qui fait mal aux Hurricanes, puis c'est ils ont une faille, à mon avis, mais majeure, c'est dans le but. Vraiment, là, Mrazek, c'est difficile. Autant de talent dans une équipe, mais que qui est gâché par un goaler, puis ça sera pas Reimer qui va venir solidifier ça. Fait que c'est, moi, juste à cause de la manière que Shesterkin a fini l'année, j'ai vraiment découvert ce gardien.
Tu penses que c'est lui qui va avoir le filet pour les séries?
Ah, moi, j'en suis convaincu. Si les Rangers sont sérieux là, dans leur démarche de « on a des séries », mais on y va avec le jeune qui a gaulé une fin de saison incroyable. Il a été vraiment bon. Il a prouvé que toute la pression médiatique de New York, c'était pas un problème pour lui. Pour moi, c'est un no-brainer. Moi, c'est sûr que je le veux dans le net.
C'est sûr qu'en tant que partisan, je suis d'accord avec toi, mais moi, en tant que dirigeant des Rangers, tu risquais de briser sa confiance alors qu'on sait qu'un gardien, c'est plus difficile, il y a un match préparatoire. Tu sais pas si les rapports sont à jour ou pas pour peut-être scraper sa confiance, puis des fois, ça peut nuire à une carrière. Fait que...
Ben,
Écoute, je sais pas sur quel pied danser, est-ce qu'on lui donne les notes ou pas, là? Je trouve que c'est vraiment une arme à double tranchante, là, mais je suis quand même d'accord avec ce que tu dis.
Ouais, parce que moi, si je me dis aussi en même temps que si tu lui donnes la confiance de « Hey, on te donne le net, on est en playoff, c'est toi qu'on veut, on a le king, que écoute, on pense que c'est toi qui es le plus hot », si ça va pas bien, là. Si il perd sa confiance à cause d'une série, on s'entend-tu que c'est pas le gardien d'avenir que tu t'attendais qui va avoir de la pression à New York? S'il te le dit tout de suite là, que ça va pas bien, ben commence à changer tes plans et à repenser à un autre jeune gardien de but. Moi, si je me dis que ces séries-là, pour les clubs qui n'auraient pas dû faire les playoffs, ce qui, par exemple, Montréal, qui les Rangers, Chicago, les Coyotes, les clubs qui étaient vraiment mal placés pour faire les séries, hey, gâte-toi, fais-en des tests. Vas-y, là, tu veux, t'as un bon goaler, il a été super bon dans du hockey qui valait rien dire parce que les Rangers, ils passaient pas proche de faire les séries, ils étaient pas là, mais tabarnouche, on va te le donner, essaye-les, on va voir ce que tu nous donnes. Si ça marche, tabarnouche, t'as quelque chose, puis ça marche pas, ben, il t'a fini 11e contre le club qui était 6e, c'était normal que tu perdes.
Non, c'est sûr.
Moi, c'est le même, je le vois un petit peu là, avec cette situation-là. Puis c'est sûr que le côté un petit peu qui est plus difficile, c'est que, tu sais, Lundqvist, on s'entend depuis le nombre d'années qu'il est là. Et lui, c'est une claque à la gueule un peu si tu lui donnes pas le net. C'est surtout ce côté-là
Je pense que Lundqvist, je pense qu'il va soit qu'il se prépare à la retraite.
Tranquillement, c'est clair. Mais tu sais, en même temps, c'est plus le même entraîneur qui était là dans ses bonnes années. C'est plus le même directeur général qui était là dans ses bonnes années. À un moment donné, ils n'ont plus de lien émotif, je crois, avec lui, dans le sens que c'est sûr que c'est un gars que tu respectes, mais c'est pas eux autres qui l'ont repêché et qui ont passé plusieurs années à son pic.
Bon, effectivement.
Donc, Pat, pour commencer, la prochaine série que je veux vraiment savoir ton opinion là-dessus, je pense que ça va être, à mon sens, la série la plus excitante, qui est Calgary-Winnipeg. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est vraiment dur à dire. Je te dirais, sur papier, pour moi, ce serait aucun doute que Calgary gagnerait. Mais... Calgary m'ont vraiment déçu cette année. Calgary ne joue pas à la hauteur de leur talent. Et Winnipeg, au contraire, je trouve, pour la situation qu'ils ont dû gérer, surtout au niveau des défenseurs, toute la perte des défenseurs qu'ils ont eu, ils ont quand même réussi à bien colmater ça. C'est sûr que Laine, c'est pas un joueur qui est multidimensionnel, mais tu sais que si il a la bonne place, il est capable de la mettre dedans. T'as des joueurs que j'adore comme Kyle Connors, qui est quand même très, très dynamique au niveau de l'offensive des Jets. Écoute, je te dis pas ça d'une façon convaincante, là, mais je pense que les Jets sont capables de gagner cette série-là.
Ah, ouais. Moi, les Jets, si mettons on regarde au niveau stat avancé, la seule raison pourquoi qui était proche de faire série, c'était les Bucks. C'est les bas et à mon sens, le gars qui devrait gagner le Vizina cette année. Je pense que sur une série là, à court terme contre un rival, ça va être du hockey incroyable. Mais moi, je m'attends quand même que ce soit Calgary qui vont le faire. Puis, tu sais, t'as eu tellement raison quand tu as parlé de la défensive de Winnipeg. Pour vrai, là, c'est vraiment impressionnant ce que Paul Maurice a réussi à faire. Là. Perdre le gros Big Buff, Dustin Byfuglien, qui est parti en semi-retraite, ça ne tentait plus, s'est refait opérer, là, qui est rendu out of shape. Il ressemble à Andrés Galarraga dans ses bonnes années ou avec les Expos. après ça, ben, ils ont perdu Chariot aussi. Tobias Enstrom il est parti aussi. Fait que là, Tyler Myers, puis on parle pas de Jacob Trouba qui est rendu avec les Rangers aussi. Fait que c'est une catastrophe. Ben, pas une catastrophe. Ben, quand même une catastrophe, mais qui a été quand même un petit peu évité, mais c'est plus la même équipe du tout. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? C'est vraiment exceptionnel, mais quand on regarde un petit peu les stats avancées, on voit que Hellebuyck a vraiment son mot à dire là, dans l'équation là, de pourquoi que les Jets est encore là. Mais c'est un club encore avec une attaque incroyable, tu en as parlé. Sur un 3-5, là, ça va être écœurant. Je ne manquerai pas une game. Je pense que ça va être du Christy de bon hockey. Puis ça va être serré. Ça peut aller jouer d'un côté comme de l'autre. Mais en série, je donne un petit peu l'avantage à l'équipe qui a le meilleur gardien quand c'est serré comme ça. Puis, je pense que Calgary va gagner, mais je ne serais pas surpris.
Ah, j'ai quand même une petite hésitation.
Quand on va
moi, je te dirais, c'est beaucoup... on avait déjà parlé dans un podcast là, en début de saison, là. Il faut que Gaudreau s'allume. Moi, c'est le joueur par qui l'équipe va avoir son succès. On a vu l'an passé, Calgary, ça n'a pas bien été en série. Gaudreau était absent. Dans les autres saisons, ça avait bien été en série. Gaudreau était présent. Je pense encore, ça va être encore le facteur qui va être déclencheur de si Calgary ou non va avoir du succès dans les séries cette année.
Oui, absolument. Puis, tu sais, on entend un peu des rumeurs que peut-être Calgary, justement, serait en train de réfléchir à la possibilité de l'échanger. Fait que s'il aime ça à Calgary, je pense que ces séries-là vont vraiment être déterminantes là, là-dessus. Et on parlait d'un joueur qui était dominant depuis des années, qui était bon, qui était tellement dynamique offensivement. Et là, c'est un joueur complètement marginaux actuellement, même s'il jouait avec les meilleurs joueurs du club. C'était marginaux. C'est ça. Fait que je pense qu'il y a besoin d'être bon. On entend des fois qu'il y a des joueurs que c'est. Il faut qu'ils soient bons, là, mais lui, il n'a pas le choix.
Il n'a pas le choix.
Écoute, si on regarde la prochaine série, Pat, là, on va parler des Oilers puis des Blackhawks. C'est quoi que tu t'attends de cette série?
Écoute. J'aime bien le duo McDavid Dreisaitl du côté des Oilers. Puis je te dirais que je rajouterais même Oscar Klefbom, que je pense qu'il est en train de prendre son envol du côté de la défensive des Oilers, finalement, qu'on pourrait dire. Là. On voit que défensivement, il est un petit peu plus présent et offensivement, il apporte peut-être plus le côté offensif qu'on attendait peut-être un petit peu de lui depuis quelques années. Mais. Je pense que pour les Oilers, je pense que la pire équipe qu'ils voulaient avoir à affronter dans les séries, c'est une équipe d'expérience de séries éliminatoires que sont les Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, Patrick Kane, malgré l'âge avancé de Duncan Keith, Brent Seabrook, Corey Crawford. Je pense que ça pourrait être une série qui pourrait être encore à l'avantage et négligée. Est-ce que moi, là, personnellement, je ne parierais pas contre les Blackhawks cette année? Je pense que c'est une équipe qui serait capable de trouver une façon là, de faire en sorte que McDavid ne produise pas. En tout cas, ça reste à voir, mais de ma pensée à moi, je pense qu'ils sont capables de réussir à faire ça. Puis on sait que les Oilers, c'est pas une équipe qui est excellente au niveau de la défensive. Est-ce qu'ils vont être capables d'être en mesure de jouer contre Écoute, ils ont un excellent passeur, Patrick Kane, qui peut faire le jeu qu'il veut sur la patinoire. Là, je pense qu'en termes de fabricant de jeu, je pense que c'est peut-être le meilleur de la Ligue nationale. Ils ont des bons tireurs, Alex DeBrincat. Puis écoute, Jonathan Toews est encore là. Puis des bons joueurs qui sont capables de la mettre dedans aussi, effectivement. Fait que ça va être vraiment une série là, que je pense que les négligés pourraient être capables de causer la surprise.
Ah, moi, je suis tellement pas en accord avec toi. Moi, Chicago, j'y vois un peu comme un bateau qui est pogné en feu, puis sont dans le plein milieu de l'océan. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Oui, Patrick Kane, t'sais, c'est des gars d'expérience. Tu sais, DeBrincat va amener du succès. Brendan Saad aussi. Mais la défensive. Tabarnouche qui me fout, ça me fait. Tu sais, Duncan Keith a beaucoup, beaucoup ralenti. Puis, quand tu as parlé de Brent Seabrook, ça m'a fait penser en même temps. Brent Seabrook, c'est un des rares joueurs qui a décidé de opter out de la saison. Fait qu'il ne sera même pas présent pour jouer avec les Hawks. Puis, en même temps, faire la petite parenthèse, aussi bien dire, les joueurs qui seront pas là, il n'y en a pas tellement par rapport aux autres sports, mais les joueurs qui ont officiellement décidé là, de pas se présenter là, pour les équipes, tu sais, on parle de Carl Osner à Montréal, Stephen Kempfer à Boston, Mike Green à Edmonton, Roman Polak à Dallas. On parle de quand même, je pense, le joueur le plus important là, de la liste, c'est Travis Hamonic à Calgary qui a décidé d'opter out, qui est de loin le joueur le plus talentueux de la liste. Il y a aussi Sven Berchi à Vancouver et Zach Trotman à Pittsburgh. Fait que ça, c'est la petite liste des joueurs qui ont décidé d'opter out. Mais puis aussi.
Je suis pas d'accord avec ça, mais en tout cas.
Parce que, tu sais, si on regarde au niveau des
Écoute,
stats avant...
c'est une ville bulle.
Ouais.
Il y a zéro cas de tous les joueurs qui ont été testés. Tu fais un sport professionnel, tu gagnes des millions.
Ouais.
Quand tu sais que tout le monde dans l'entourage, les épiceries, les restaurants, continue à rouler, continue à travailler. Je suis vraiment pas d'accord. Je comprends au niveau baseball, qui circule de ville en ville, ces choses-là. Mais... Voler hockey. En tout cas, personnellement, je suis vraiment pas d'accord avec ça,
ouais.
Mais bref, ferme la parenthèse de ce côté-là.
Oui. Je vais juste la compléter parce que je la trouve importante. Puis on s'en est pas parlé depuis, mais surtout un athlète professionnel qui, on s'entend, est en super bonne santé, à part certains qui peuvent avoir une condition un petit peu plus difficile. On s'entend, c'est pas les personnes les plus à risque. Puis ils sont dans leur bulle, fait que leur famille, ils seront pas. Touché, même s'il développe le virus. Fait que je suis vraiment en d'accord avec toi. Tu sais, la NBA, ça va vraiment bien. La bulle, la Ligue nationale, ça va vraiment bien. Le seul sport qui l'échappe, c'est le baseball, mais il se promène de ville en ville. C'est qu'il n'y a pas de bulle. Il fonctionne comme à l'habitude, sauf que il y a personne dans les estrades. Tu sais, oui, on fait des abris plus grands, un petit peu, mais ça n'a rien changé. Fait que c'est sûr que, à part le baseball, le hockey et le basket, le risque est quand même, on s'entend, très, très mince. Là. Même on peut prendre l'exemple du NASCAR. Le NASCAR est recommencé depuis quasiment 2 mois, depuis le début. Il y a juste un pilote qui l'a eu. Fait qu'on s'entend que c'est quand même un très, très, très faible pourcentage quand même. Là. Puis la bulle n'est pas aussi fermée que la Ligue nationale l'est actuellement. Là. La Ligue nationale, je pense qu'ils ont vraiment bien fait les choses.
Je te dirais même qu'ils sont quasiment plus protégés que d'autres choses, mais en tout cas.
Ah, absolument. Puis, tu sais, si on revient au hockey un petit peu, tu sais, je pense que l'argument pourquoi qui va être le point principal de pourquoi que les Hawks vont perdre en première ronde et potentiellement manger une varlope, c'est que c'est la pire équipe qui accorde le plus de lancers de l'enclave, puis c'est la pire équipe qui accorde le plus d'occasions de marquer dans un match. Puis c'est l'équipe qui accorde le plus de lancers dans un match.
Ah, oh, mais ça, c'est des stats qui t'avancent la saison régulière. On s'entend que les séries, c'est d'autres choses.
On s'entend que c'est autre chose, mais Je
Écoute.
mettrais. Tu sais, t'as raison, ça se peut que ça arrive pas, mais moi, je mettrais pas mon argent chez Hawks. Si
Ah,
tu
t'as le
veux,
droit, t'as le droit.
on fait un pool. Si tu veux mettre. Si tu veux prendre les Hawks, c'est ton droit, mais je serais pas de ton bord avec
Voilà.
celle-là.
Sinon, si on regarde, il reste deux séries là, à analyser au niveau de la conférence de l'Ouest. Une série que je pense encore que les gagnants, c'est peut-être pas aussi facile à analyser que d'autres. C'est la série qui va affronter les Canucks de Vancouver versus le Wild du Minnesota. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier?
Ah, ça va être bon aussi. Moi, j'aime plus Vancouver un petit peu, par exemple. Tu sais, Vancouver, ils ont été bien coachés, sont tellement dynamiques offensivement. C'est tellement le fun de voir Patterson puis Quinn Hughes. C'est tellement le fun de les voir aller. Vraiment des bons jeunes. Tu sais, je trouvais que les Canucks, c'était un des clubs qui allait nulle part dans les dernières années. Puis cette année, vraiment, ils ont vraiment steppé up. C'est vraiment le fun à voir. Minnesota, on s'attendait à avoir une véritable catastrophe. Ça a été vraiment tout le contraire qui s'est produit. Ils ont eu quand même pas mal de succès. Fait que ce qui, je pense, à la surprise de plusieurs, fait que. C'est un beau petit club aussi, Minnesota. On s'entend que Zach Parise, Ryan Suter, c'est des gars d'expérience. Ça fait longtemps qu'ils sont
Ah,
dans la ligue.
effectivement.
Ça va être une des, je pense aussi, une des excellentes séries. Dominique, encore là, il n'a vraiment pas eu une grosse saison. C'est à
Puis
quel point.
parlant du Wild, Olivier, je sais que tu sens encore plus intensément que moi, là, mais écoute, est-ce que Kirill Kaprizov est éligible pour jouer les séries cette année?
Tous les joueurs qui ont signé, ils peuvent être admissibles, mais ça scrappe une année de leur contrat. Fait que,
OK.
par exemple, les Romanov pourraient aussi potentiellement jouer avec Montréal, mais ils perdent une année de contrat.
OK.
Fait que c'est
Est-ce
ça un petit peu.
que... OK. Faudrait que je regarde là, si le Y se sont prononcés là-dessus. J'imagine que...
Parce que là, un petit peu, où que la situation, la dernière fois qu'on avait des nouvelles, c'est que vraiment, c'était au point de vue du visa. Il voulait lui, puis Romanov, était à la même place en Europe, en Russie, pour prendre un vol, mais il n'y avait justement pas de disponibilité avec le visa, puis tout. Fait qu'il était pogné
Ok.
là-bas. Fait qu'ils vont-tu arriver en milieu de ronde? Vont-tu arriver trop tard? Vont-tu arriver d'avant? C'est là qu'on le sait pas, qui, je pense, va être l'argument principal de ils vont-tu jouer ou pas. Moi, je
Chez
pense qu'un.
Romanov, il est ici, là, mais il est en quarantaine. Il n'est pas éligible pour
Il est
jouer pour
arrivé,
cette
OK, bon.
raison-là. Il est en
OK,
quarantaine dans son
OK.
hôtel.
Ah, je l'ai manqué celle-là. Fait que,
Ouais.
ben d'abord, Kaprizov doit être avec. Il doit être arrivé aussi au Minnesota, parce que les deux, ils avaient pris des
Est ensemble.
photos avant de partir, là, quand ils étaient isolés ensemble. Fait que, bon, mais tu m'as appris probablement la nouvelle, puis Kaprizov doit être au Minnesota. Fait que je m'attends qu'il joue. Je pense que
Ah ouais.
Kaprizov, pour les gens qui connaissent pas, c'est un joueur qui a un potentiel assez vraiment, vraiment élevé, qui pourrait devenir facilement dans l'élite de la Ligue nationale, un
On compare
joueur.
beaucoup à ses compatriotes Tarasenko et Kuznetsov dans leur façon de leur parcours avant d'arriver à la Ligue nationale et l'impact possible qu'ils pourraient avoir là.
Ben oui, absolument. Parce que tout comme Kuznetsov, on considère que Kirill Kaprizov, c'était le meilleur joueur à ne pas jouer dans la Ligue nationale. Puis, comme Evgeny Kuznetsov, c'était exactement pareil. Avant d'aller à Washington, c'était le gars que tout le monde voyait comme le meilleur. Puis, au championnat du monde junior, il était capitaine de son équipe, il était dominant, il a scoré des gros
Oh.
goals. Il a de la grit, il a des skills, il a tout.
Bref, c'est pour cette raison-là que je te demandais si tu savais si elle allait jouer, parce que ça change un peu la donne des séries, là, à
Ah
mon
ben oui.
avis. Je pense qu'un joueur comme ça qui arrive dans une équipe, ça ça peut juste amener un vent de fraîcheur. Ça change un peu la dynamique aussi de l'offensive du Wild. Parce que défensivement, le Wild, à mon avis, est beaucoup plus solide que les Canucks. Là. Mm-hmm. Devin Dubnyk, plus solide devant son filet, avec des bons défenseurs comme Ryan Suter, Matt Dumba, écoute, on peut en nommer plusieurs. Là. Si on amenait Kaprizov à jouer avec des Zach Parise, des choses comme ça, ça pourrait être plus intéressant. Moi, au niveau des Canucks, oui, ils ont de bons joueurs. Moi, qu'est-ce qui me fait peur un peu, c'est l'inexpérience des séries éliminatoires. Là. On sait que c'est pas une équipe qui a beaucoup d'expérience. Oui, ils ont des bons signatures comme Tyler Myers qui ont goûté aux séries. Mais on s'entend que vraiment les éléments clés comme Elias Pettersson, même Bo Horvat, ou même aussi à la défensive, là, Quinn Hughes, c'est pas des joueurs qui ont goûté nécessairement aux séries éliminatoires. C'est peut-être à ce niveau-là que je suis plus réticent. Et encore une fois, je pense que j'irais pour les négliger. Si j'aurais une somme à gager, j'irais du côté du Minnesota.
T'as l'air de soit te payer un voyage dans le sud ou tu vas être pauvre pour une couple de mois avec ça. Ben moi, je m'attends au Canucks qui vont le faire, mais je pense que les partisans d'hockey vont être gagnants parce que je pense que ça va être vraiment une super de bonne série. Ça va être du bon hockey là, avec ce nouveau.
Effectivement. Ce qui nous amène à la dernière série, les Predators versus les Coyotes. Une série qui, à mon avis, devrait être à l'avantage des Preds. Et je pourrais même avancer que, écoute, tout dépendant de l'importance des séries qu'apportent les dirigeants des Preds, je pense que c'est là que Peter Laviolette va jouer son poste de derrière le banc. Je pense pas qu'il doit vraiment à l'erreur d'échapper à cette série-là. On sait que c'est une saison que, oui, on finit dans une place à faire les séries, mais je pense que les attentes étaient pas mal plus élevées, surtout avec l'arrivée de Matt Duchene cette année. C'est pas une équipe qui a vraiment répondu aux attentes qui étaient faites envers eux. C'est une équipe qui est vraiment complète. Peut-être au niveau des gardiens de but, c'est un petit peu plus questionnable, mais au niveau des défenseurs et des attaquants, c'était une équipe qui est extrêmement bien nantie. Les Coyotes, c'est une équipe qui est jeune, qui est vraiment dure à évaluer. Oui, on a des arrivées de Kessel et Hall. Malgré les deux coupes Stanley de Phil Kessel, je pense que c'est une équipe qui manque d'expérience au niveau des séries, malgré qu'il y a quand même beaucoup de talent. Là. C'est une ligue qui est partagée de Kessel, Hall et Keller. Je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être très intéressant. Mais écoute, je pourrais pas aller à l'encontre des prédateurs pour cette série-là.
Ah ben, je suis d'accord avec toi. Là. On s'entend là, que moi, Peter Laviolette, si c'est pas là que ça se passe, là, je pense que son poste, il mérite de se faire congédier. Il a eu plus souvent qu'à son tour vraiment des bonnes équipes sous la main, puis il a jamais réussi à vraiment emmener. Ben, il y a eu l'année qu'on était en finale de la Coupe contre Pittsburgh, mais à part ça, pour l'équipe qu'il y a eu, il n'a jamais été capable de à mon sens, de vraiment apporter cette équipe-là à un autre niveau. T'sais, il y a, à mon sens, je pense, le meilleur défenseur qu'il y a eu dans cette saison, c'est Roman Josi. Il a été tellement bon, tellement dominant. Puis c'est pas normal qu'un club qui a ce joueur-là, en plus que les Matt Duchene, Philip Forsberg, Johansson, que ces gars-là soient sa limite de ne pas faire les séries. Là. T'sais, on se cachera pas. Là. T'sais, Nashville avait 78 points. Si on regarde en arrière, là, tabarnouche, Calgary avait 79, Winnipeg 80, Minnesota 77, puis on va même aller avec les Coyotes à 74, et ça cognait en arrière, là. C'est ouais. une série de 3-4 défaites, puis potentiellement...
Il l'échappait,
il n'était plus là. Fait que c'est sûr que les Predators, je m'attends qu'ils sont vraiment de loin favoris, mais tabarnouche, si le scénario catastrophe se produit, Laviolette, c'est terminé. Là. Ça, c'est sûr. Ça serait impardonnable.
Ah, effectivement. Je pense que c'est ça qui clôt un peu notre podcast de cette semaine. Ça a vraiment fait du bien de parler puis de revenir un peu dans l'atmosphère du hockey. Je sais pas ce que t'en penses, Olivier.
Puis, je te dirais même, Pat, je pense qu'on dormait un peu, puis on n'est pas encore remis dans notre saison de hockey, mais l'entraîneur-chef des Prédateurs, c'est John Hines. Fait que Peter Laviolette a déjà perdu sa job. Écoute, on est prêt à le congédier une deuxième fois.
Wow! Écoute, ça arrive, là, je pense qu'on n'était pas encore remis totalement dans notre version hockey.
Écoute, ben oui, John Hines, qui est l'ancien entraîneur des Devils du Jersey. Fait que non, Peter Laviolette ne joue pas sa job. Fait que John Hines a le droit à chemin pour le succès de rebâtir sa propre histoire. Fait que.
Ah oh, ben! C'était assez intéressant. Je vous souhaite une bonne écoute. Puis ça va être un rendez-vous pour la semaine prochaine pour le prochain podcast.
N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify. Fait qu'on est pas mal partout. Balado Québec aussi, si vous voulez encourager d'autres podcasts d'ici. Donc, jusque-là, on se souhaite une bonne fin de semaine de hockey.
Yes.
Soyez là. Bye bye.
Salut.